Bien, eh bien, bienvenue pour cette seconde partie de soirée qui est aussi en même temps la troisième des soirées intitulées 30 ans d'écrivains sur ce principe que nous avions imaginé de faire se rencontrer des écrivains qui avaient autour de 30 ans quand le centre s'est ouvert et d'autres qui ont autour de 30 ans aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus sur les âges. C'est un principe de toute façon très souple. Rencontre de génération et rencontre de génération autour de rencontres aussi de la littérature avec d'autres pratiques artistiques. La dernière soirée s'intitulait « Cultiver la littérature » et nous avions brassé des champs assez divers de culture. Celle-ci s'appelle « Le roman fait son cinéma » et donc vous allez pouvoir bien sûr entendre les formes de relations que ces deux arts peuvent prendre l'un avec l'autre, et nous aurons dans les séances qui viennent littérature et musique, littérature et théâtre et autres disciplines d'ailleurs. Et donc pour cette soirée, j'ai le plaisir de recevoir ici parmi les aînés, ou ce que l'on peut dire tels peut-être, Jérôme Prieur et Jean-Philippe Toussaint, donc de jeunes aînés, et parmi les plus jeunes, Christine Montalbetti et Tanguy Viel. Et comme on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, j'ai préféré céder ma place d'animateur à quelqu'un qui connaît à la fois très bien les deux mondes, Claude Murcia, qui enseigne à l'université Paris 7, qui est à la fois spécialiste de littérature française et étrangère, travaille notamment sur Juan Bennett, mais aussi de cinéma, qui a publié notamment autrefois un livre sur le nouveau roman et le cinéma. Et je lui laisse immédiatement la parole pour présenter plus avant et faire dialoguer les écrivains invités. Bonsoir.
Là, c'est bon ? Oui, ça marche ? Bien, bonsoir. Je remercie Dominique de m'avoir invité aimablement à animer ou à modérer, selon le cas, cette soirée. Donc, comme il vous l'a dit, la séance est consacrée aux relations qu'entretiennent la littérature et le cinéma, mais si j'ai bien compris, plutôt du côté de la littérature, puisque le titre, c'est la littérature fait son cinéma. On a généralement l'habitude, enfin on a plus l'habitude d'envisager la façon dont le cinéma a puisé dans la littérature les situations, les thèmes, les personnages, les scénarios, etc. Mais depuis fort longtemps, la littérature, l'écriture littéraire se nourrit également du cinéma. Alors, ce soir, donc, je ne vais pas évidemment répéter ce qu'a dit Dominique, mais je voudrais très rapidement présenter, je sais que vous avez tout lu, mais enfin pour resituer les choses, rapidement donc présenter chaque invité. Donc, Jérôme Prieur a part, outre une série télévisée, Jérôme, vous me rectifiez si je dis des bêtises, et des essais sur le christianisme, enfin tout un travail sur le christianisme, notamment avec Gérard Mordilla, a écrit plusieurs essais qui sont écrits généralement sous l'inspiration de l'image. Il en reparlera, bien sûr, il développera ce point, dont par exemple un livre qui s'intitule « Séance de lanterne magique », dont le titre parle seul, ou « Le spectateur nocturne », qui est un très joli livre qui collectionne des textes d'écrivains sur le cinéma des origines jusqu'à environ la fin des années 30, hein, si je me souviens bien. Il a écrit aussi un essai qui s'intitule Proust fantôme, qui est une sorte de biographie rêvée de Proust, où là aussi il est question de photos, d'images, de cinéma. Et puis un essai qui s'intitule Le roman noir, où là peut-être les liens sont un peu plus distendus, encore que avec le cinéma. Mais à côté de cette activité donc d'écrivain, Jérôme Prieur était également un cinéaste. Donc il a réalisé ce qu'on peut appeler des portraits cinématographiques, et notamment sur Artaud, Artaud, Paulhan, Léon-Paul Fargue et Proust aussi. Et récemment, donc un documentaire qui s'intitule René Char, nom de guerre Alexandre, qui est un très beau documentaire qui vient de sortir sur la période de résistance de René Char. Et Jean-Philippe Toussaint, qui est assis à côté, donc, est également écrivain et cinéaste, puisqu'il a écrit, je ne vais pas tous les énumérer, mais à partir d'un roman qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, ça s'intitule La salle de bain, qui a été adapté à l'écran par John Lvoff, jusqu'à son dernier qui s'appelle Fuir, La mélancolie d'Idane, qui est un tout petit texte, mais avant c'était Fuir. Donc en gros une dizaine de textes, hein, c'est bien cela, dont La salle de bain qui a été adaptée, mais pas par lui, puis Monsieur, qui est un roman également assez court, qui a été adapté par lui-même à l'écran. Ensuite, L'appareil photo, qui a également fait l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée donc par Jean-Philippe lui-même. Et il a, en plus donc de ces films, réalisé un autre film original sur un scénario original de lui, donc, qui s'appelle La patinoire. Donc là aussi, l'activité se partage entre le cinéma et la littérature. Le cas des deux autres écrivains est un petit peu différent. Christine Montalbetti a écrit plusieurs romans, 5 ou 6. Elle ne se souvient plus elle-même. Je crois que c'est 5. Non, 4 et des nouvelles. Voilà, 3, un récit, des nouvelles. Dont je détacherai un roman qui s'appelle Western, donc vous comprendrez très vite pourquoi j'y insiste, qui est un roman qui parle de western, hein, donc qui parle de cinéma, donc qui produit une sorte de récit, enfin d'objet un peu hybride, hein, entre le cinéma et la littérature, dans une modalité très très particulière, dont bien sûr elle parlera. Et puis Tanguy Viel a écrit 1, 2, 3, 4 romans, hein, dont un qui nous intéresse particulièrement, qui est de 99 et qui s'appelle Cinéma. Là aussi, le titre est éloquent et c'est l'histoire. Il s'agit d'un narrateur qui raconte le film à sa façon, bien sûr, et c'est ça qui est intéressant. Le film de Mankiewicz, Le Limier. Et il se termine au moment où le film se termine. Donc il y a là deux démarches qui sont relativement proches l'une de l'autre, celle de Christine Montalbetti et celle de Tanguy Viel, et qui diffèrent bien sûr des deux autres. Donc comme Dominique Viard l'a souligné tout à l'heure, il y a des différences entre nos invités, une différence, je ne vais pas y revenir, d'ordre générationnel, mais une différence également... Oui, désolé Jean-Philippe et Jérôme, mais ce n'est pas une tare non plus. Une différence aussi dans la modalité, disons, générique, puisque trois d'entre eux écrivent de la fiction, alors que Jérôme Prieur est beaucoup plus un essayiste, hein, qu'un romancier. Ça, c'est une différence assez fondamentale. Et la troisième opposition ou différence est liée au champ d'activité, puisque deux d'entre eux sont à la fois écrivains et cinéastes, et les deux autres se consacrent entièrement à l'écriture, mais en y mêlant fortement le cinéma. Voilà, donc nous allons essayer de... Je vais évidemment leur passer la parole en essayant de faire en sorte qu'on ne monologue pas trop. Et donc, je vous invite à vous interrompre, pas de façon trop intempestive, mais je poserai la première question pour lancer un peu la conversation sur la place que tient le cinéma qu'a tenu le cinéma dans votre formation, dans la formation de votre sensibilité, votre formation culturelle, et quel type de cinéma vous avez particulièrement aimé. Qui veut...
Bon.
Jean-Philippe.
Je vais commencer. Oui, j'écris des livres, je fais des films, et une chose, je crois qu'on peut remarquer, en tout cas pour moi, qui me semble remarquable, c'est que j'ai d'abord été attiré par le cinéma, et qu'en fait, je crois que je n'ai écrit des livres que parce que je n'ai pas pu faire des films. Donc, il y a eu un, lorsque j'étais étudiant. J'étais très attiré par le cinéma, j'avais envie de réaliser des films. Et il se trouve que concrètement, c'est très difficile de mettre en place un projet, une production, et que j'étais un peu inadapté, enfin pas très capable de trouver un producteur, de quelqu'un qui pourrait me faire confiance pour faire un premier film. Et donc c'est d'une façon détournée que je me suis mis à écrire. J'ai commencé à écrire parce que je ne pouvais pas faire de cinéma. Et donc ça, c'est le début. Et la fin, c'est-à-dire maintenant, depuis 5 ou 6 ans, je ne fais plus de films. Je suis devenu tellement passionné par la littérature que, en fait, quelque chose qui était un peu, au départ, un pis-aller, m'a tellement passionné, m'a tellement intéressé, que finalement, maintenant, c'est le cinéma qui me semble un peu moins intéressant. Et l'essentiel de ma passion est arrivé à la littérature. Enfin, j'ai donc mis le temps à me passionner pour la littérature, mais m'étant passionné pour la littérature, finalement, je me suis un peu désintéressé du cinéma.
Christine, c'est... Alors, je ne sais pas si je dois rebondir sur ce qu'a dit Jean-Philippe Toussaint. J'écris depuis toujours et donc je n'ai pas eu de désir de faire des films. Peut-être qu'un jour j'en aurai d'ailleurs. Et que ce sera plus facile maintenant, mais j'avais des amis en revanche qui voulaient faire du cinéma, qui font du cinéma maintenant, et donc c'était un peu leur domaine en fait. Mais le cinéma a joué un rôle très important pour moi, je crois que continue de le jouer, même si c'est peut-être un petit peu moins qu'auparavant. En tant que spectatrice, j'allais beaucoup au cinéma, je vais toujours relativement beaucoup au cinéma. Et il y avait pour moi une sorte d'émulation, de rapport d'entraînement entre l'émotion esthétique que je pouvais ressentir devant certains films et le désir d'écrire. Même si ce que j'écrivais le lendemain en me mettant à ma table n'avait rien à voir avec le film que j'avais vu la veille, le fait d'avoir éprouvé cette émotion esthétique pour moi avait un effet entraînant, un effet de stimulation.
Jérôme, le cinéma pour vous a été une source, un moteur.
Tout à l'heure, Claude, vous avez beaucoup insisté sur le côté générationnel. Je ne sais pas, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Non, mais c'est intéressant. C'est que je pense que depuis, pour faire un peu d'histoire, depuis les années 20, je pense que devant un film, devant les films, on est toujours adolescent, on est toujours jeune homme ou jeune fille ou jeune femme. Enfin, on est toujours le cinéma et je pense est très lié à la jeunesse, ce qui fait que peut-être il y a un moment d'ailleurs on y va moins ou on a une autre stratégie par rapport au cinéma. Je pense que c'est un art tout à fait récent. C'est un art qui a 100 ans. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, le livre que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Le spectateur nocturne. Je voulais dans ce livre savoir comment des écrivains avaient été les contemporains de ce bouleversement de la sensibilité qui est l'apparition du cinéma dans leur vie. Et donc, ce qui m'intéressait pas, c'était de savoir comment ils jugeaient le cinéma. On se souvient tous des jugements. Enfin, il me semble résumer l'attitude des intellectuels par rapport au cinéma au milieu du XXe siècle, de Georges Duhamel traitant le cinéma de divertissement d'ilote. Au contraire, j'avais été très frappé, mais comme nous tous, par ce que disait Céline, c'est que au cinéma il y avait une grande place trouble pour les pauvres et pour les rêves. Et donc je pense que notre jeunesse, notre enfance, elle est dans cette grande place trouble et dans cette fascination de ces images plus grandes que nous. Enfin, peut-être que c'est ça qui sépare d'ailleurs nos générations, c'est que j'ai connu un cinéma plus grand que nature, enfin où l'image était plus grande que nature, et c'est très important, je pense, dans le rapport qu'on peut entretenir avec ces images. Il y a ça, il y a cette perpétuelle adolescence, enfin je pense qui qui nous fait vibrer, quoi. Il y a aussi le fait que, alors là, il y a peut-être un clivage de génération, d'époque, c'est que le cinéma est un art, ou a été un art de la mémoire et un art de l'oubli, c'est-à-dire que les films que l'on voit ou que l'on voyait, c'est finalement assez récemment qu'on peut les revoir. Enfin, dans le livre de Tanguy Viel, il y a l'allusion à une cassette. Donc, Le Limier a pu être un film revu, mais imaginez, il n'y a pas si longtemps, ce que c'est qu'écrire sur un film sans avoir la possibilité de le revoir, enfin, sauf en salle. Mais donc, le film est fait, je crois, c'est très important, le film est fait du spectateur. Enfin, Hitchcock disait qu'il faisait de la mise en scène du spectateur. Je crois que c'est profondément juste sur ce que c'est que l'art du cinéma. Et donc, ce mélange de mémoire et d'oubli, moi, m'a fait écrire. Enfin, ce sont les premières choses que j'ai écrites sur les films, en les accumulant, en les collectionnant sur des petits carnets noirs. Enfin, et puis ensuite, c'est devenu de la critique de films, mais de la critique de films dans l'espèce de volonté extraordinaire, exorbitante, de faire un livre sur le cinéma que j'ai fait, comme ça, au gré des hasards, au gré des circonstances, au gré des rencontres. Et puis, une fois que j'ai eu écrit ce livre, j'ai un petit peu écrit sur les films, et puis je me suis arrêté. Enfin, comme si j'avais dit ce que j'avais à dire profondément, intimement, sur cette attirance pour la projection, la salle obscure, le film lumineux dans une pièce, une nuit en plein jour, voilà, ou un jour en pleine nuit, je ne sais pas.
Et toi, Tanguy, comment tu...
Je crois que c'est parti d'une crise au départ par rapport à l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture était, quand j'avais, mettons, 20-22 ans, la seule chose que je voulais, pour le coup, mais pour laquelle j'arrivais pas à faire du récit, enfin pas de manière très... avec beaucoup d'envergure et tout ça. Et donc le cinéma est venu relever les impossibilités que la littérature me semblait moi me proposer, quoi. Et surtout avec les lectures de Beckett, tous les gens comme ça derrière. Alors qu'à côté, ben, le cinéma, c'était Hitchcock, c'était la puissance narrative, c'était la puissance mimétique, c'était la puissance d'émotion, du coup, la capacité à ramener dans un champ homogène des éléments hétérogènes. Ce que je rêvais de la phrase, en fait, mais la phrase n'arrivait pas chez moi à répondre à ça. Et donc pendant un temps, ça a été un rapport de fascination. Et j'entends bien ce que dit Jérôme Prieur sur la taille des images, parce qu'au fond, même si je les regardais déjà à l'époque sur un magnétoscope, elles étaient trop grandes pour moi. Et pour le coup, je pense que ce qui m'a un peu débloqué, c'est d'avoir écrit ce livre qui s'appelle Cinéma, parce que c'est un livre de combat de boxe entre une narration et un film. Et donc c'était aussi ce rapport de phagocytation de l'image. Et pour le coup, je suis complètement d'accord, c'est le magnétoscope qui permet ça, qui domestique complètement l'image et qui crée une cinéphilie qui n'est plus une cinéphilie d'admiration, pas que d'admiration, mais d'ingestion, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a permis après de reconstituer des territoires de récit et de reprendre le cinéma comme comme une manière de faire comme une autre dans les arts. Aujourd'hui, je me dis juste, le cinéma est un moyen comme un autre de raconter des histoires. Donc, comme moi, je veux raconter des histoires, il peut m'aider comme la peinture peut m'aider, comme la littérature peut m'aider.
Tu n'es pas tenté par le ciné, par la réalisation de films?
Non. En plus, c'est compliqué, il faut être plein. Non, mais c'est des trucs de production. C'est vraiment ça la grande différence. C'est un travail collectif, quoi, le cinéma.
Le collectif est aussi, moi, de l'extérieur, ce qui je trouve troublant dans le cinéma, c'est aussi le fait de différer le désir. C'est-à-dire que nous, quand on a un désir d'écrire et on est dans cette dynamique-là, on bricole dans le moment du désir, même si c'est difficile, que ça, etc. Tandis qu'avec le cinéma, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est ça. On a un projet, un désir, et puis après, il faut beaucoup de temps pour rassembler l'argent, l'équipe, trouver les lieux de tournage, le moment du tournage. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur les lieux du tournage et que c'est une vieille histoire, ce désir de film?
Et qu'il faut effectivement séparer tous les temps et toutes les opérations, alors qu'écrire une phrase, c'est faire la lumière, faire le cadrage, faire le montage en même temps, pas savoir comment ça va finir, et en plus, ça coûte 0 franc.
Jérôme, vous qui avez une expérience de cinéaste, vous êtes d'accord avec cette...
C'est un emploi du temps au cinéma, je crois. Il y a quelque chose de militaire aussi dans l'organisation du temps. Écrire, c'est être seul, faire des films. Enfin, j'ai pas l'expérience j'ai l'expérience pour être passé sur des tournages de fiction, mais j'ai réalisé aucun film de fiction. J'en ai pas je crois pas le désir. J'en ai écrit, mais et écrire des documentaires, c'est être beaucoup plus proche de la de la caméra stylo, quoi. On est dans un rapport ou au monde, ou à la construction, à la reconstruction qu'on se fait du monde, ou aux gens qui sont en face de soi. Il y a une conspiration. On essaye de faire bloc avec un petit groupe de gens, plus ou moins petits d'ailleurs. Et finalement, je trouve que la phase la plus proche, quand on connaît bien enfin, les deux modes d'expression, la phase la plus proche de l'écriture, bizarrement, peut-être, c'est le montage, c'est la phase du montage. On est dans, avec un matériel qu'on ne peut pas changer, comme on peut effacer une phrase ou en réécrire, en changer le temps, les verbes, les compléments, etc. Mais c'est très proche, enfin, c'est un art de l'ajustement, du déplacement. Et c'est ça qui est fascinant dans la littérature et dans le cinéma. C'est-à-dire que les arrangements, les permutations changent du tout au tout l'aspect de ce qu'on veut raconter, montrer, évoquer. Ça me paraît tout à fait fort.
Et vous prenez autant de plaisir à l'activité littéraire.
Oui, mais c'est pas du tout... C'est vrai que c'est pas du tout comparable, mais enfin, ce qui est formidable, c'est de pouvoir avoir différents modes d'expression. Je trouve que c'est un grand luxe et une grande chance.
Oui, le plus frappant, c'est en effet, je crois que ça n'a rien à voir. Que faire un film et écrire un livre, c'est vraiment des choses qui sont extraordinairement différentes et qui font appel à des qualités diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a, par exemple... des choses très évidentes, c'est-à-dire que lorsque on écrit, il faut aimer la solitude, et la solitude est une nécessité, et je dirais même apporte beaucoup à l'écriture, à la littérature. Or, la solitude ne convient pas pour un réalisateur. Le réalisateur a besoin d'avoir un contact avec l'équipe, avec les comédiens, et donc d'avoir une dimension beaucoup plus sociale. Il faut qu'il y ait des qualités humaines qui passent. Donc, je crois qu'un solitaire ne serait pas adapté pour faire un film, et quelqu'un qui serait beaucoup trop sociable ne serait pas très à l'aise pour être tout seul pendant 3 mois.
Vous êtes un peu schizophrène, alors ?
Alors, je comparais souvent le fait que c'était un peu comme la ville et la campagne. Disons que la littérature serait plus la campagne, la solitude, etc., et le cinéma plus la ville. Et je crois qu'on peut aimer et la ville et la campagne, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être en ville et à la campagne, mais on peut très bien passer, et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire mes films, mais j'étais très content que ça s'arrête et que je puisse... après m'isoler et repartir dans une solitude et écrire un livre. Donc c'est vrai que les deux sont possibles, on peut aimer les deux, mais pas en même temps, ils ne sont pas compatibles.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'adapter un de vos romans au cinéma ?
Bon, là, c'est une expérience personnelle. C'était au début, pour moi, plus facile... plus rassurant, c'est-à-dire que n'ayant pas d'expérience, tout le monde me demandait des garanties, des commissions, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est ma sœur qui produisait mes films, mais on voulait s'assurer que je sache faire quelque chose. Et donc, pour moi, c'était plus rassurant parce que, comme écrivain, j'étais reconnu, je pouvais donner un dossier de presse, etc. Et on pouvait davantage me faire confiance. Donc, c'était plus facile. Petit à petit, d'ailleurs, j'ai été, ce qui me semblait quelque chose de logique, vers un scénario original. Et donc, finalement, ça me semble plus intéressant d'écrire. Si on fait un film, autant... qu'il soit cinématographique de bout en bout, et que l'idée immédiate et l'idée de départ soit également cinématographique, donc qu'on pense à un scénario original, à un découpage, etc. Donc c'est un peu bâtard, les deux premières expériences, Monsieur et la Sébiane. Ça avait un côté pratique, moi ça m'a plu, j'étais content, c'est des bonnes expériences, mais ce n'est pas ce que je conseillerais.
Donc ça n'a rien à voir avec, par exemple, la pratique de Marguerite Duras, son goût pour le passage d'une écriture à une autre.
Bon, alors, j'exagère un petit peu. Il y a des choses très agréables de revenir. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini un livre, qu'on a passé 2 ans avec des éléments d'un livre, on se dit toujours qu'il y a des choses qui n'ont pas trouvé complètement leur aboutissement, des choses qui sont encore en réserve, des choses qu'on pourrait creuser un tout petit peu et retrouver. Donc quand on se remet dans l'ambiance pour écrire simplement le scénario, on peut se remettre dans l'ambiance. Moi, j'ai toujours été content de revenir Donc, c'est-à-dire que 3 ans après, ça m'est arrivé pour 3 livres, enfin pour mes 3 premiers livres, je suis revenu 3 ans après au moment du scénario. Généralement, je faisais pas ça tout seul, et l'écriture du scénario était un moment très agréable où j'utilisais en fait un chantier qui avait duré 2 ans, où tout n'avait pas été utilisé, et je pouvais encore piocher ici et là des éléments. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Il y a des éléments intéressants quand même dans le fait d'adapter ses propres livres. C'est pas complètement erroné de bout en bout.
Christine. Est-ce que ça donne envie de les changer, de changer des choses, enfin de...
C'est-à-dire, en ce qui me concerne, j'étais toujours vers davantage de liberté. Au départ, je voulais rien changer. Oui. La salle de bain que j'adaptais avec Joan Lvov, dès qu'on touchait un quart de chose, ils disaient non, le livre. Oui. Donc c'était la Bible. Oui. On pouvait toucher à rien. Et puis petit à petit, j'ai commencé à prendre de plus en plus de liberté, et jusqu'à arriver à un scénario original qui a la liberté totale, puisqu'il n'y a même pas de livre au départ.
Oui. Non, mais même dans un livre, enfin pour la salle de bain, par exemple. Que l'expérience du cinéma donne envie de modifier des choses dans le livre, parce que on se souvient de Bonnard qui allait modifier les toiles dans les musées ou chez les collectionneurs, et on pourrait avoir envie. Un livre n'est pas éternellement dans sa forme, il peut au fur et à mesure de ses rééditions bouger un peu, et on peut avoir envie de ça, non?
Grâce au ciel, ça ne m'est jamais arrivé. Non, pour moi, c'est une chance. Une fois qu'un livre est publié, il est terminé. Quoi qu'il arrive, on peut me signaler tout ce qu'on veut. Oui. Et notamment, dans ce débat-là, une chose qu'on me signale qui est amusante avec les traductions, c'est des faux raccords. Ça m'est arrivé donc dans un livre, j'avais fait un faux raccord dans un livre, c'est-à-dire que le personnage se lève d'un canapé et 4 pages plus loin s'assied sur une chaise. Et donc ça m'est arrivé dans le livre à la télévision. La traductrice tchèque m'avait signalé ça. Il est hors de question que je change. Il y a 10 personnes qui l'ont lu avant, on l'a relu, personne ne l'a remarqué. C'est plutôt quelque chose de plaisant. Et j'ai surtout certainement pas envie de changer ça.
Non, mais parce que je veux dire que le scénario, qui est un exercice quand même très particulier, c'est une écriture, on pense, un écrivain peut écrire un scénario, enfin, comme si ça avait à voir. C'est un genre littéraire très particulier, c'est un genre transitoire qui n'est fait que pour permettre à des images de venir ou à des dialogues, etc. Mais en même temps, c'est un exercice extraordinaire, je trouve, dans le cas de l'adaptation, de lecture. Vraiment, je sais pas, il y a des livres que je connais intimement, physiquement, parce que je les ai adaptés. Enfin, et je trouve qu'à ce moment-là, on est comme un marionnettiste qui essaye d'animer la poupée du texte. Et je trouve qu'à ce moment-là, on peut avoir, ça ne m'est jamais arrivé d'être dans ces deux positions, mais d'avoir envie d'écrire autrement, enfin, ou d'écrire un autre livre, hein, d'ailleurs, ce qui est la meilleure des solutions, la meilleure des réponses.
Oui, moi, ce qui m'apparaît là, c'est moi, je suis assez nul en scénario. C'est-à-dire que c'est ou bien je fais un livre, ou bien je fais un film. Scénario, c'est assez intermédiaire, et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que ou bien c'est l'écriture qui m'intéresse, et donc à ce moment-là, tout le travail et toute l'énergie doit être dans l'écrit, et donc ou bien c'est le film, mais à ce moment-là, le scénario n'est qu'une étape et n'a pas beaucoup d'importance parce que justement, c'est le film qui vient après. Et donc finalement, le scénario. C'est pas une étape qui m'intéresse. Et c'est paradoxal, puisque on pourrait croire que, étant écrivain et cinéaste, je serais le roi du scénario. Or, j'ai l'impression d'être nul en scénario. Enfin, en tout cas, propre de scénario, je serais.
Mais non, c'est pas tellement paradoxal. Hein. Parce qu'en effet, le scénario, c'est quand même un texte en devenir, un texte inachevé. Qui est...
Vous m'auriez pas fait confiance pour écrire un scénario.
C'est un piège.
Christine, quel est justement votre rapport à... comment se joue le rapport au cinéma, et là, dans ce cas précis de western, hein, c'est au cinéma, les références sont assez explicites au western spaghetti. Comment se joue ce rapport dans votre écriture?
Pour ce qui est de western, au départ, l'envie d'écrire ce texte était plutôt née d'une sorte d'image intérieure dans laquelle je voyais un personnage sous un auvent, dans une image très, très contrastée, comme il y en a souvent dans les westerns, où souvent les lieux sont très surexposés, pas toujours, mais souvent très surexposés, avec des ombres tranchante. Donc au départ, ça avait plutôt à voir avec l'évocation de la lumière. Il y a beaucoup de photons qui se promènent dans mes textes. Et au départ, voilà, c'était une sorte de désir de travailler sur la lumière. Aussi de travailler sur cette figure du cow-boy qui est un personnage solitaire et aussi un personnage en quête de réparation, un personnage souvent qui, dans le western classique comme dans certains western spaghetti, qui porte en lui un traumatisme caché, qu'il tait, souvent un personnage très silencieux. Et voilà, enfin, c'est parti plutôt de ces éléments, la lumière, ce personnage en quête d'une solitaire, un peu taciturne et en quête d'une réparation. Et puis le western spaghetti, à la fois je suis d'origine italienne, alors je me disais que ma manière de faire du western serait forcément du western à l'italienne, que c'était une autre manière de traiter la question des origines, que j'avais un peu traité dans l'origine de l'homme à travers le fantasme de la paléontologie. Et puis c'est aussi un genre très contemplatif, un peu plus contemplatif que le western classique, encore que. Et ce qui m'intéresse aussi bien au cinéma, au fond, c'est vrai que les cinéastes qui me passionnent le plus sont plutôt des cinéastes de la lenteur. Ce qui m'intéresse aussi dans le western spaghetti, c'est cet étirement du temps, qui est aussi pour moi un des luxes du roman. Le fait que le roman prend son temps, peut dilater des instants, travailler sur la complexité à l'œuvre dans un seul instant. Voilà, c'est ça aussi qui me touchait dans le western à l'italienne, cette puissance de contemplation, même excessive, enfin des plans qui durent très longtemps sur des toutes petites choses, ce goût pour le gros plan, pour la diversion, pour le fait de s'intéresser à des toutes petites choses dans l'image, des insectes, une goutte qui tombe dans les Sergio Leone, et comment toute une petite fable peut se jouer simplement dans ce détail d'une goutte qui tombe ou d'insectes qu'on va filmer et qui vivent leur petite épopée parallèle qui à la fois détourne de l'action principale et en même temps lui donne une couleur.
Il y a quelque chose d'un héritage là-dedans, non ? Dans cette espèce de phénoménologie parfois de la description, du détail.
D'un héritage, vous voulez dire, littéraire ?
Du nouveau roman, non ?
Oui, sans doute. Certainement, j'ai beaucoup lu. Certainement, oui. J'ai beaucoup lu de nouveaux romans. Peut-être je lis moins maintenant, mais certainement. En fait, ce dont je me suis aperçue en travaillant sur western, c'est qu'il s'agissait moins pour moi de me dire au fond, voilà, à quoi ça ressemble un western et quels sont les procédés qu'on peut adapter dans l'espace de l'écriture, qu'on pourrait transposer. Au fond, ça a été moins ça que de me rendre compte que ce qui m'intéressait précisément dans le western était déjà ce qui m'intéressait dans l'écriture, c'est-à-dire l'étirement du temps, la fabulation du détail, voilà, des gros plans, ce qu'on pourrait appeler des gros plans, voilà, qu'il s'agissait moins d'inventer une méthode de transposition que finalement de travailler ce que j'avais déjà commencé à travailler dans les deux romans précédents et qui pouvait se jouer à la fois dans le western à l'italienne et dans... Comme aussi autre chose qui se joue dans le western à l'italienne, c'est le rapport au comique, le rapport à l'humour, et en même temps à un sujet souvent... c'est Sergio Leone, souvent tragique. Et cette tension-là entre la tristesse et l'humour, entre la nostalgie ou la tragédie, ou le rapport au traumatisme, et un traitement humoristique aussi, je crois, était à l'œuvre dans les textes précédents, et c'était une tension qui m'intéressait.
Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est ce qui n'est pas cinéma dans le western. C'est ce qui est déjà écriture, en fait, quoi, littérature. Et pour le coup, moi, je ne sais pas si je me permettrais de dire l'inverse, mais j'ai l'impression de demander au cinéma, justement, des ruses, de l'ordre, justement, de l'argument, du scénario, que j'ai du mal à faire par l'écriture elle-même, même du mal à inventer, en fait. Et que souvent, en allant chercher des grands archétypes ou des grands genres cinématographiques, ou pas forcément des genres, mais des scènes, par exemple, ça me donne la possibilité, en fait, de trouver le ton et la séduction idéale pour rendre le roman le plus efficace possible, en fait. C'est-à-dire, du coup, c'est vraiment, j'essaye de demander au cinéma toujours d'être le plus, presque je vais prendre un mot grossier, mais le plus putassier qui puisse être pour obtenir la séduction maximale auprès du lecteur, quoi. À l'intérieur de laquelle j'escompte bien pouvoir glisser ma petite affaire à moi. Mais au fond, ma petite affaire à moi, c'est avant tout que ça séduise la terre entière. C'est vrai, c'est quand même. Et je me demande si faire des livres qui viennent chercher le cinéma comme référence, et pas aussi faire appel à cette grande communauté que le cinéma, qu'on le veuille ou non, représente comme mythe moderne du récit. C'est-à-dire, c'est quand même notre grand récit à nous, quoi, dans notre histoire et tout ça. Donc, au fond, ça, moi, j'ai l'impression de demander au cinéma tout ce qui fait qu'on ait des millions et des millions à aller dans des salles, voir des films. Bon, même si aujourd'hui, c'est plus les salles, c'est les DVD, mais. Et parce que justement, je crois que la littérature est essentiellement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'elle est par définition, elle est par définition cette diffraction du temps, cette démultiplication des instants, cet art du détail, du bord, de la digression, etc. Et que finalement, la recadrer dans des schèmes qui lui appartiennent pas, c'est pour moi lui donner une impulsion nouvelle, quoi. Mais, enfin, j'ai le discours inverse, mais je suis très proche, à la limite après, dans les livres, de ce que fait Christine. Donc c'est pas.
En compliquant encore un peu, on peut parler aussi de la photo et de la vidéo. Moi je fais aussi des photos et des vidéos, et je me suis rendu compte, je ne vais pas dire paradoxalement, parce que vous allez me contredire encore, mais paradoxalement, que y a beaucoup plus de liens entre la littérature et la photographie qu'entre la littérature et le cinéma. Et en particulier, il y a une chose qui est très frappante pour moi, c'est le rapport au temps. Et qu'il y a une sorte de. Lorsqu'on écrit, il y a évidemment une intimité, une proximité avec le temps. Toute personne qui écrit a une sensation du temps, du passage du temps. Le temps est infiniment fort. Et puis aussi, quand on écrit, on peut créer du temps, construire du temps, créer des moments de temps. Et j'ai l'impression que cette relation au temps, elle est beaucoup plus forte et sensible dans la photographie. Ou dans la vidéo aussi, mais enfin la vidéo peut-être ça complique encore, que dans le cinéma. Et que finalement, en tout cas, alors peut-être que c'est mes expériences, et c'est peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, le cinéma a cette lourdeur qui fait qu'il y a ce travail d'équipe, c'est une autre expérience, mais pour moi, je n'ai jamais senti cette relation au temps, cette relation intime au temps, je la ressens beaucoup plus dans la photographie et dans la littérature.
Diable.
Oui.
Diable, non, parce que le cinéma, c'est l'art du temps, tout de même, non.
Ben oui, mais justement, paradoxalement.
Oui, non, mais c'est parce que je crois que là, on confond le cinéma que l'on voit et le cinéma qu'on fait ou qu'on voudrait faire, quoi. Mais le cinéma que l'on voit, enfin, il y a 3 milliards d'exemples qui nous montrent que c'est du temps que l'on va voir. Et vous lisant votre travail, tous les trois, qui est très différent, moi qui ne suis pas romancier, mais moi qui peux me poser en écrivant des questions qui sont pas nécessairement éloignées des questions que vous vous posez, je suis très frappé par le fait que, enfin, il y a un côté bateau, hein, le roman fait son cinéma, la littérature fait son cinéma, d'ailleurs, c'est péjoratif faire son cinéma, donc il y a un côté bateau, l'éternel débat sur l'adaptation et tout ça, bon, c'est un peu, bon, je vais pas dire de gros mots, mais je trouve que ce qui est très frappant dans votre travail, qui se ressemble pas dans votre travail aux uns et aux autres, c'est que c'est une pratique de la littérature comme art de voir. Enfin, peut-être que c'est peut-être ce que je projette, enfin, pour filer une métaphore qui a beaucoup à voir avec le cinéma, mais c'est un art de voir et un art de faire voir, enfin. D'enfuir, on est embarqué comme ça, on voit ce qui se passe dans l'origine de l'homme, on voit ce qui se passe, on est comme avec une caméra endoscopique, enfin il y a ce...
Je me permets de vous interrompre pour continuer ce que vous dites, c'est quand je pense là, parce que comme je suis en train de réfléchir sur Beckett à cause d'une intervention que je dois faire ici, et que Beckett c'est précisément l'absence d'image et l'absence de métaphore, je suis complètement d'accord avec vous, c'est que derrière Beckett on n'a qu'une solution, c'est de reconstituer des images et c'est de vouloir absolument d'abord réutiliser la métaphore sans scrupule et puis de manière générale d'écrire, faire voir, faire apparaître, créer des scènes, etc. Enfin, je me permets juste de dire ça pour compléter ce que vous dites, et que c'est, on le fait même presque parce qu'on est arrivé à des points d'impasse dans les années 60-70 qui font que de toute façon, du côté de la rumination et du grand cercle noir et du grand dépeupleur, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, le compte est réglé. Quoi. Donc,
Ou alors on abandonne le roman.
Oui,
enfin, c'est ça.
Peut-être dans la poésie, des femmes comme ça, il y a des choses possibles, mais dans le roman, ce n'est pas possible.
Ouais. Mais donc, tout ça à voir profondément avec, enfin, à voir avec ce qu'on peut voir, avec ce qu'on peut pas voir, avec le fantôme, avec le spectre, avec le temps, avec la vitesse, avec l'entraperçu, et donc avec la photographie, mais au-delà de la photographie comme moment qui est, qu'on essaye de saisir et qui glisse, qui s'échappe, enfin...
Proust, vous le dites dans Proust Fantôme, là, n'aimait pas le cinéma parce qu'il pensait précisément qu'on ne pouvait pas y travailler le temps.
Oui, exactement. Ah, oui. Alors, il a des exemples.
Je crois qu'il avait tort, évidemment.
Il a des exemples dans les années 20 qui lui donnent totalement raison. Oui, et puis, nous, avec la distance, on se dit, tiens, mais ce dont il rêve, il y a très peu d'allusions. Elles sont un peu voilées dans la recherche du temps perdu. Mais ce dont il rêve, c'est d'un cinéaste qui est en exercice à son époque, qui est Jean Epstein, enfin, d'une certaine façon. Une façon d'être dans le plan, dans la grosseur du plan, dans le ralentissement, dans l'accélération, enfin bon. Mais son œuvre est d'une autre manière extrêmement étrangère au cinéma, et en même temps, je pense qu'elle nourrit le cinéma moderne, parce qu'elle est une grande rêverie sur le temps.
Mais c'est peut-être un peu complexe, mais je suis d'accord avec Proust.
Oui, j'imagine.
Non, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre du pléonasme dans le travail du temps au cinéma. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une durée qu'on voit, mais dans la littérature ou dans la photographie, c'est finalement la création du temps, créer du temps, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus est un véritable défi. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tourner une caméra, effectivement, on enregistre du temps, mais on ne crée pas du temps.
Il me semble, enfin, moi je suis pas du tout spécialiste de cinéma, mais il me semble que le temps au cinéma, c'est pas seulement le temps de visionnement ni le temps d'enregistrement, c'est aussi on peut avoir un temps très resserré, c'est aussi une affaire de rythme, enfin, et il me semble
des grands cinéastes du temps, hein, oui. Comme Tarkovsky par exemple, qui disait précisément que le faire du cinéma, c'était sculpter le temps, c'est le titre d'un de ses ouvrages. Alain Resnais est un grand cinéaste du temps, hein, Chris Marker, enfin il y a vraiment des cinéastes qui travaillent le temps comme le matériau propre.
Il me semble que chaque film est quand même un...
Mais Jean-Philippe, la différence, c'est que peut-être qu'au départ, effectivement, vous enregistrez et qu'ensuite, il faut faire des opérations littéraires pour arriver à faire du cinéma, c'est-à-dire couper et monter, quoi. Alors que la littérature qui part avec des éléments complètement explosés, des mots sur la table, comme dit Duras, et qui doit les rassembler, elle fait une opération qui tente plutôt, elle, de fluidifier et d'arriver à ce fameux plan-séquence qui ferait rêver n'importe quel écrivain, et qui fait rêver Proust, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée de fluidité, de roman qui coule, ça fait rêver Proust. Quoi. Donc de ce point de vue-là, il a un idéal purement cinématographique.
Ma fascination pour la littérature étant assez récente, je n'en reviens toujours.
Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous, en dehors des films que vous avez réalisés, est-ce que le cinéma irrigue votre littérature par des procès, une sorte de perfusion plus ou moins...
Non, de moins en moins, j'ai l'impression. C'est-à-dire que déjà, les films que j'ai faits... D'abord, je n'ai jamais fait les deux en même temps. C'est-à-dire à un moment où, en effet, j'adaptais mes livres, et puis après j'ai arrêté de faire des films. Et donc finalement, je me suis un peu détourné du cinéma, et détourné à la fois comme je ne fais plus de films, et même j'en vois de moins en moins. Donc c'est quelque chose, j'insiste là-dessus, parce que je reviens à ce que je disais, j'ai été d'abord fasciné par le cinéma, et j'ai cru à un moment qu'on ne pouvait pas s'exprimer... être artiste sans passer par le cinéma, que c'était la voie d'accès naturelle pour s'adresser au public, que les gens n'étaient intéressés que par le cinéma, il me semblait, et que d'une certaine façon, je me détourne du cinéma et je suis de plus en plus passionné par les livres et par la littérature. Bon, je vais vite, j'exagère un peu, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est quand même quelque chose que, oui, que je
Par ressens. Exemple, la scène de scooter dans Fuir, dans quelle mesure elle vient quand même pas un petit peu de chez Wong Kar-wai ou de chez... Bon, oui, pourquoi pas, mais comme c'est à Pékin, si je me souviens bien.
Oui, mais la, en l'occurrence, elle vient d'une photo que j'ai faite. Et en fait, elle vient d'une photo que j'ai faite et que j'ai décrite très précisément. Et donc, le rapport là est net avec la photographie. Alors, évidemment, il y a un aspect évidemment très visuel, mais c'est pas contradictoire. Enfin, l'aspect visuel qu'il y a dans mes livres, il est totalement littéraire parce qu'il est fait de mots.
Non, mais c'était presque d'un point de vue référentiel. Ça pouvait vraiment appartenir à toute la nouvelle vague asiatique.
Mais en effet, bon, j'ai quand même vu beaucoup de films asiatiques qui m'ont beaucoup intéressé. Et non, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. David Lynch aussi, on peut le garder. Monsieur Lynch, quelques autres.
Et Tanguy, donc tu as parlé du cinéma tout à l'heure comme matériaux du roman, mais visiblement dans tes autres romans tu empruntes d'autres modèles fictionnels. Alors quelle est la place du cinéma là-dedans? Est-ce que le cinéma c'est comme au fond c'est un peu la même chose que d'utiliser le roman policier, les codes du roman policier ou du roman d'espionnage ou du roman d'aventure? Ou donc est-ce que c'est un support qui dans ta démarche est ponctuel et puis tu passes à autre chose, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus profond?
Bon, c'est un truc très très en évolution, et même j'ai envie de dire en évolution rapide, parce que sur 6-7 ans là, de pratique, j'ai entretenu des rapports très distincts, en fait, de livre en livre, avec le cinéma et même avec la fiction en général. Donc c'est difficile de parler, c'est pas une méthode qui est en place pour des livres à venir, quoi. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Voilà. Donc, non, c'était quoi la question?
Je me posais la question de savoir si le cinéma avait simplement une place ponctuelle comme
modèle fictionnel. Non, c'était par rapport. Oui, c'est parce que je pensais à un truc que tu as dit. Est-ce que tu utilises des codes comme... Moi, je trouve. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, mais on n'utilise pas des codes. On rencontre des codes quand on travaille. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que, mais c'est vraiment la démarche inverse, parce que utiliser des codes, c'est vraiment l'idée de faire le malin avec des genres, moi, j'ai envie de raconter telle histoire, et à un moment, je me rends compte que je le veuille ou non, de toute façon, comme disait Serge Danet, il y a trois histoires dans l'humanité, et on fait tous les mêmes, et bon. Donc, je retombe sur des archétypes et sur des grandes structures archaïques, disons, et dont, par exemple, la scène policière est elle-même un vecteur, surtout le XXe siècle, notamment, plus en cinéma pour moi, d'ailleurs, qu'en roman. Mais c'est vrai que, du coup, partant de là, je me retrouve dans des formes pour lesquelles le cinéma, et je le disais au début, donc je vais peut-être un peu me répéter, irrigue mon travail de la même manière que, par exemple, pour Insoupçonnable, je voulais faire un roman gothique. On est loin du roman gothique, mais il est passé au prisme en l'occurrence, de Obsession de Palma, qui est lui-même un remake de Vertigo, qui sont des films purement gothiques, qui viennent eux-mêmes du nœud d'intrigue très du roman noir, presque, tel que Jérôme Prieur le décrit. Donc tout d'un coup, ce mix-là, d'où vient telle idée le granit, je sais qu'il vient de Hurlevent, mais je sais que, par contre, l'échange de billets, il vient de Obsession. Et ce mix-là, cette patte que j'essaye de faire, elle a des origines comme ça, très distinctes, qui font qu'il n'y a pas de méthode en jeu. Et en troisième lieu, je pourrais dire qu'un souvenir d'enfance peut tenir lieu de tiers éléments pour venir ajouter à la scène une complexité. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on travaille aussi à partir de toutes sortes d'images intérieures qu'on ne reconnaît pas forcément, d'ailleurs, et dont les unes viennent du cinéma, les autres de lecture, d'autres encore de l'expérience de la vie courante, d'autres des décors de théâtre, etc. Et voilà, c'est comme le scooter de Fuir. Il a beaucoup, beaucoup de parrains, en fait, et dans l'expérience du monde et dans l'expérience cinéma.
Un scooter, il n'y a pas de scooter, c'est une moto.
C'est une moto.
Ça, c'est du cinéma, tout à fait.
C'est Moretti, le scooter.
Oui, c'est Moretti,
c'est Simon Liang.
Oui, c'est que... C'est, voilà, c'est... La Vespa, non, ce mélange, la Vespa, Moretti.
Ce mixte mélange, il est essentiel comme ça dans notre rapport au cinéma. Il n'y a pas le cinéma. Je sais pas, il y a quelque temps, on m'a demandé, mais peut-être à certains d'entre vous, d'établir une liste des 100 meilleurs films. Enfin, ça revient régulièrement, ce genre de choses. Alors, d'abord, un peu amusé, j'ai dit, bon, oui, d'accord. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à réaliser ce qui m'attendait, ayant mille autres choses à faire, je me suis sauvé en me disant que on pouvait raisonner sur ces 10 meilleurs films, enfin ces 10 films de chevet par exemple, mais les 100 meilleurs films, ça n'avait aucun sens. Il y en a beaucoup plus, enfin
beaucoup moins,
hein, ou beaucoup moins, que c'est beaucoup plus facile d'avoir une liste courte dans lequel il y a des films très étranges comme ça qui viennent, et que chaque film en plus est peuplé de l'ombre de ces films. Enfin, vous citiez Vertigo par exemple. Oui. Vertigo est un film fétiche parce que c'est un film, on a beau l'avoir vu des dizaines de fois,
mais attendez, en plus là, on est toujours avec les références qui sont très nobles, mais oui, pour ce qui est de la rémanence mentale des images, n'importe quel navet peut fonctionner parfaitement pour opérer une tâche dans la mémoire, si je peux dire, quoi. Et moi franchement, je sens que sans m'en rendre compte, il y a plein de trucs très médiocres que j'ai dû voir et qui remontent.
Navet, je sais pas, navet, c'est peut-être,
mais si on est tous nourris d'images, ce qu'aucun écrivain il y a un siècle, les écrivains n'étaient pas autant nourris d'images, et que qu'on s'intéresse ou pas au cinéma, qu'on regarde ou non la télévision, qu'on s'intéresse aux publicités ou pas, on est complètement baigné par des images, et un nombre considérable d'images de valeurs et de niveaux complètement différents. Et ça, c'est quand même une différence.
Mais elles sont obsédantes ou elles sont pas obsédantes, quoi.
Oui, mais elles sont là. En tout cas, on baigne dans les images, oui, on nage dans les images.
Aussi cette question que soulevait Tanguy qui est intéressante, c'est que au fond, c'est pas seulement la puissance esthétique de certains films ou la puissance littéraire de certains livres qui confère cette énergie, qui donne envie d'écrire, mais parfois on peut être extrêmement touché, effectivement, par des films où ça sent entrer dans l'axiologie, qu'on peut dire. Voilà, un peu médiocre, mais c'est la même chose pour des livres aussi, d'ailleurs. On peut être extrêmement touché par des livres de paralittérature qui tout d'un coup viennent rencontrer de toute façon, travaillent avec une matière aussi qui est celle de fantasmes, d'émotions, etc. qui sont
Cervantes, avec elle qui chote avec les romans de chevalerie. Hein.
Et puis c'est aussi le vieux débat du feuilleton, des effets du feuilleton.
Tu aimes le Limier aussi, pardon.
C'est pas un navet.
Non, pas du tout, mais le roman de chevalerie non plus. Mais c'est un genre populaire, je veux dire. Oui, Christine, on vous a interrompu.
Non, c'est aussi la vieille fascination dont parlait Duras et d'autres vis-à-vis du feuilleton. On peut aussi pleurer dans une série télé qui alterne chant et contre-chant avec des lumières pathétiques et minimales et des acteurs qui ne jouent pas. Et on peut être, on peut avoir des émotions très fortes parce que ça ressasse toujours un peu effectivement les mêmes histoires.
Alors c'est vrai qu'après peut-être que bon, il y a une petite pyramide intérieure qui se fait et qu'on peut aussi supposer que les images qui sont les chants contre chants qui existent en mode mineur, toutes ces choses-là, ont été déjà jouées par le cinéma à un moment en mode majeur presque. Mmh. Donc souvent c'est vrai que là où je pourrais rejoindre peut-être ce que dit Jérôme Prieur, c'est bon, il y a quand même, c'est pas le mot obsédante qui correspond parce que ça marche pas comme critère pur, mais c'est vrai, à la fin. Bon, il y a une ligne de crête qui se fait de liée à l'histoire du cinéma et qui fait que, bah oui, c'est pas hasard si c'est Vertigo qui revient, quoi, ça c'est sûr.
Et puis les clips et la publicité citent énormément. Il y a beaucoup de références. Toute image est très référencée, d'autres images et du cinéma évidemment qui est pillé. Enfin, et donc je pense que toutes ces images ne sont pas nécessairement hiérarchisées. Alors certes, il y en a qui ont plus de valeur et qui ont un attachement plus fort auquel on peut attacher plus d'importance, mais beaucoup ne sont pas hiérarchisés.
Oui, elles ne m'inspirent pas. C'est pour que je... Voilà, c'est pas...
Parce que vous ne faites pas de la fiction.
Oui, c'est ça, parce que je ne fais pas de la fiction. Non, et quand je vous écoute, il y a des séries B et tout ça qui m'ont... Enfin, je me souviens d'un film fantastique qui s'appelle Zem, c'est l'invasion des fourmis géantes. C'est un film génial, fait avec trois fois rien, comme beaucoup de séries B américaines des années 50, tournées à toute vitesse et tout ça. Ouais. Mais je pense aussi, par
c'est
exemple...
C'est mon prochain livre.
Je pense aussi à un film de Polanski. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être noble, parce que c'est Polanski qui est frantique. Qui est un film d'action et tout ça, il n'y a rien à faire. Quand je peux le voir, quand il repasse et tout ça, je le regarde avec autant de fascination et j'arrive pas à comprendre. Enfin, bien sûr, j'ai quelques hypothèses, j'ai quelques clés, mais je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi ça marche Voilà, donc c'est ça qui est très fort, et que la publicité ou les images banales ou les images molles qui nous entourent, parce qu'on est de plus en plus entouré d'images qui ne sont pas des images, qui sont des images molles, des images vides, des images qui coulent de robinets d'eau tiède et tout ça, qu'on est dans un monde environné, enfin nourri de ça. Donc ces images-là, elles m'arrêtent pas, elles saisissent pas mon regard. Et donc elles me font pas écrire, elles me font pas rêver, mais elles me font pas écrire. Mais j'ai envie d'écrire contre ça, saisi par certaines images, je dirais. Donc,
il y a aussi une autre différence, qui frappe évidemment la lecture de toutes vos œuvres, c'est la tonalité. Il y a quand même une communauté entre vous trois de. Une dimension ludique, disons, un rapport ludique avec l'écriture et avec le cinéma. Enfin, notamment pour vous deux avec le cinéma, parce que vous en faites vraiment le matériau d'un roman. Alors que dans les essais de Jérôme Prieur, la tonalité est beaucoup plus, comment dire, plus, à la fois plus grave et poétique, certaines poésies, mais disons plus grave, beaucoup moins ludique que chez les... que chez vous trois, d'une façon générale.
Alors, peut-être ce que je pourrais dire, puisqu'on a parlé de génération, c'est quand même à leur rendre hommage aux parrains sur la question de l'humour, parce que quand les premiers romans de Jean-Philippe Toussaint sont sortis, quand j'ai eu La Salle de Bain, et puis peut-être les deux romans suivants, j'étais très frappée. Moi, j'étais très touchée dans les textes de Jean-Philippe Toussaint par les moments de mélancolie, de méditation, et j'étais un peu gênée par les moments d'humour, en fait. Enfin, par la question de savoir comment, comment l'humour me semblait une menace contre la rêverie ou contre comment ça engageait la question du littéraire. Et donc je pense que j'ai une dette vis-à-vis de Jean-Philippe Toussaint sur la question de l'humour. Alors après pourquoi est-ce qu'il y a de l'humour dans mes textes, si on a...
Non, c'est pas vraiment c'est, pourquoi.
Enfin, pour moi, alors je sais pas comment Jean-Philippe Toussaint lui la pensée ou construit, mais pour moi je crois que l'humour est aussi une pudeur, c'est-à-dire une manière de une manière de s'excuser ou de s'interrompre ou aussi de dire voilà je crois pas trop au fait que c'est de la littérature et donc je désamorce ou en tout cas contre une manière de désamorcer le lyrisme, voilà, c'est à dire qu'il y aurait une espèce de propension à quelque chose de lyrique et puis que l'humour vient dire bon mais voilà
parce que dans votre roman, enfin dans Western, il y a à la fois l'émergence d'une fiction qui se construit au fur et à mesure des pages, et puis la mise en scène de cette même de l'écriture et du récit, c'est-à-dire qu'il y a cette
oui, c'est relativement réflexif. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. En tout cas, le lecteur est très présent dans les textes que j'écris, mais c'est pas forcément une manière de désigner le dispositif. C'est plutôt un désir de créer, d'essayer de créer une communauté utopique avec le lecteur, de travailler du côté de l'utopie. Du côté de l'inaccessible et de l'impossible, cette impossible communauté comme ça, dans le temps de la lecture, enfin, ou fragile, peut-être pas complètement impossible, justement. Voilà, je pense qu'il y a aussi dans l'humour des choses qui ont peut-être rien à voir avec l'écriture aussi, qui sont des questions aussi de tempérament. Mais disons que j'ai l'impression, moi, que l'humour, c'est un peu voilà, une prudence, une pudeur et une prudence dans la manière dont je le manie.
Pour toi aussi, Tanguy, ou c'est d'autres choses?
Non, je pense que souvent l'humour, surtout quand l'humour est un humour directement qui pique la narration elle-même, parce que bon, un humour interne à une scène comique, par exemple, c'est différent. Oui. Là, c'est plutôt, vous parlez plutôt de l'ironie qui met en doute l'écriture elle-même, quoi, oui, et sa validité ou son sérieux et tout ça. Ben, en fait, moi, j'aimerais bien être. Avec Cinéma, par exemple, c'est un livre dans lequel je crois qu'il y a cette ironie-là,
oui, bien sûr.
Qui dénonce d'ailleurs son dispositif et tout ça. En fait, il y a un second degré, il y a une trame dans les autres livres aussi, mais moi, je voudrais vraiment qu'on y croie à mes histoires. Et j'aimerais bien que ce soit par la grande... Parce que Christine, elle parle toujours de petite communauté. Moi, Je demande une grande communauté. Et donc je demande que mon narrateur soit, il s'adresse à une sorte d'absolu de l'humanité. Il est très ambitieux, ce narrateur, quand même. Et donc il peut pas être dans l'ironie, parce que l'ironie, c'est quand même par définition.
Lui, il est pas.
Une défection de.
Il est pas dans l'ironie, l'ambition. Lui.
Le narrateur. Mes narrateurs en général.
Mais non, le narrateur.
Ah oui, non, le narrateur de cinéma.
Extradiégétique. Oui. Il est dans l'ironie, mais pas le narrateur intradiégétique.
Non, mais disons que bon, pour ce livre-là, on peut dire qu'il est encore dans la catégorie de l'ironie, puisque il est hypertrophié, quoi. Voilà. Oui. Donc c'est une manière comme une autre d'être dans l'ironie. Je préférerais, pour les livres que j'ai fait après, mais surtout pour ceux que j'aimerais faire, que retrouver un rapport sain, direct, premier degré, à la fiction et au lyrisme, pour le coup.
Et moi aussi, je veux qu'on y croie, mais peut-être je suis inquiète à l'idée qu'on va pas y croire. Donc voilà.
Mais c'est vrai, non, mais je comprends. Moi, j'ai le même cas de conscience, mais je me dis au fond, il faut peut-être avoir le courage du premier degré, quoi.
Jérôme, vous posez pas ce genre de problème.
Maintenant qu'on a un petit peu travaillé, on pourrait se lancer.
C'est très différent. C'est très différent. En même temps, sur les livres, enfin sur les évangiles, je sais qu'il y a de, enfin l'exergue est emprunté, par exemple, de Jésus contre Jésus. On a emprunté l'exergue à Tristram Shandy. Qui êtes-vous, me demanda-t-il. Pas de question embarrassante, lui répondis-je. Parce que ben, là, disons que l'autorité du texte fait qu'on peut être dans un rapport comme ça d'ironie, comme avec, c'est plus facile. Sinon, je sais pas, dans Proust Fantôme, par exemple, je raconte ce qui m'est arrivé réellement. C'est une visite, on peut plus la faire maintenant, boulevard Haussmann, dans l'appartement de Proust, qui est un appartement qui se trouve dans une banque et qu'on visitait il y a quelques années comme un petit cercle de conspirateurs. Et donc ça a été une des raisons, enfin il y en a eu d'autres, mais une des raisons d'écrire ce livre. Que sans cela, j'aurais pas écrit, parce que la situation était trop drôle. Enfin, il y avait une petite troupe de pèlerins qui venaient en pèlerinage vraiment se recueillir dans un lieu où on ne pouvait plus rien voir. Enfin, on nous expliquait que tout avait changé, sauf le parquet, sauf la cheminée. Et à la fin de cette visite, on avait le droit de visiter cet endroit une fois par semaine entre 15h et 15h30. Enfin, et à la fin de cette visite, la fois, j'y suis retourné après pour écrire. Mais la première fois, il m'est arrivé une chose extraordinaire, enfin que je raconte dans le livre, c'est qu'à la fin de la visite, la petite jeune fille qui nous faisait visiter l'appartement de Proust, enfin soi-disant appartement, s'est fait gronder par sa chef de bureau, qui est arrivée en disant mais vous avez oublié, et puis elle avait oublié effectivement d'ouvrir un tiroir d'une commode et de sortir une petite corbeille en osier où il y avait des madeleines pour les distribuer aux dix visiteurs, quoi. Et donc le contraste entre l'admiration écrasante qu'on éprouve pour Proust et ce qu'on en fait aujourd'hui et tout ça, je trouvais ça vraiment drôle et cocasse et même raconté. Il y a des épisodes de la vie de Proust, puisque c'est un livre de non-fiction, mais c'est pas un essai sur Proust, évidemment pas. Il y a l'imagination qu'on peut avoir de la vie quotidienne de Proust contient des tas de choses qui sont très drôles. Enfin, il était entouré de gens drôles et il n'y a pas de raison d'être lugubre.
Jean-Philippe, vous voulez...
Oui, sur l'humour, c'est très délicat de parler de l'humour. Un jour, j'avais imaginé une sorte d'aphorisme dans un ascenseur, je crois que c'était à Varsovie, et l'aphorisme était quelque chose comme « L'humour, c'est comme l'espionnage, il est préférable de ne pas trop révéler ses méthodes pour ne pas nuire à l'efficacité de l'entreprise ». J'étais assez content. Donc, rideau. Voilà, je suis arrivé en bas en me disant, bon, il ne faut pas trop en parler, en fait. Mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur l'humour. Donc, Christine a dit certaines choses, et puis il y a eu beaucoup d'essais sur le mot d'esprit, sur la drôlerie, etc. Pour ce qui me concerne, je crois que ce qui m'a engagé à essayer d'être drôle dans mes livres, c'est le plaisir. Et donc, j'associe l'humour avec le plaisir. Donc, ça me faisait plaisir. Et donc, ça aide. Enfin, je veux dire, c'est très long d'écrire un livre. Lorsque j'écrivais des choses drôles, ça me faisait plaisir.
J'ai envie parce que
je vois que l'heure tourne. J'aimerais vous poser une question. Vous avez dû voir ce manifeste sur la littérature monde. Vous avez vu ça?
On a parlé ce midi, ça a l'air un peu ridicule comme truc. Non, ouais.
Non, j'aurais voulu avoir votre avis sur... Vous êtes au courant?
Vous l'avez.
Que c'est ridicule, mais tu l'as lu?
Non, on me l'a raconté, c'est pareil.
Et vous l'avez...
Non, moi j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu non plus.
Vous ne l'avez pas lu,
Jean-Claude? Moi j'ai dû le lire, oui, mais je...
Pas de... ça vous semble pas...
Ça me semble très curieux. Enfin, oui, évidemment. Oui. Enfin, ce qu'il dit, c'est enfoncer une porte ouverte, évidemment.
Oui, c'est ça, surtout.
C'est comme dire la littérature doit exprimer l'humain, certes. Enfin, c'est absolument évident ce qu'ils disent, mais je pressens des relents un peu réactionnaires, pas totalement exprimés, mais ce qui est dit est totalement évident. Et normalement, on peut presque y adhérer, même s'il est sous-entendu.
Oui, avec quand même une mise entre parenthèses assez radicale de tout un pan de la littérature du XXe siècle. Enfin, le monde revient après avoir été absent pendant
des décennies. Oui, enfin, mais il n'y a pas d'attaque directe, donc on ne peut même pas... C'est très sous-entendu, en fait.
Oui, c'est très implicite.
Donc, je ne pense pas qu'il faille réagir spécialement, parce que ce qui est dit est assez juste. Enfin, on peut pas l'attaquer, on peut pas attaquer le texte, donc vaut mieux ne... Ignorer.
Ne pas en parler, comme de l'humour. Ah, oui, c'est vrai, c'est un peu implicite, effectivement. D'un manifeste qui a été signé, qui s'intitule « Pour une littérature monde en français » et qui a été publié dans le monde
des livres,
dans le monde des livres, il y a la semaine dernière, quelque chose comme ça, le vendredi, oui, je crois que c'était la semaine dernière, et où il dit, par exemple, si vous voulez une phrase, c'est « Le monde revient, et c'est la meilleure des nouvelles. N'aura-t-il pas été longtemps le grand absent de la littérature française? Le monde, le sujet, le sens, l'histoire, le référent. Pendant des décennies, ils auront été mis entre parenthèses par les maîtres penseurs, inventeurs d'une littérature sans autre objet qu'elle-même, faisant, comme il se disait alors, sa propre critique dans le mouvement même de son énonciation. » Voilà. Et etc., etc.
Sans les attaques contre Proust, qui n'ose pas...
qui est une littérature monde, pourtant.
Oui, évidemment. Bien, je crois qu'il est temps de donner la parole au public, si vous avez des questions. Moi, je vois rien. Tu vois, toi?
On voit très mal.
Oui. Le dernier film?
En salle de cinéma?
En salle de cinéma.
Le dernier film.
Pour ma part, c'est Élection de Johnny To. Le film, j'ai oublié de où d'ailleurs. Hong Kong? Non, ça.
Hong Kong, oui.
Je voudrais répondre à autre chose que la vérité. Je cherche.
C'est très bien.
Parce que la vérité, c'est que je suis allée voir le film avec Hugh Grant.
C'est que?
Hugh Grant.
Donc j'ai quand même oublié le titre.
Moi, j'ai été voir le film qu'a produit ma sœur qui s'appelle J'attends quelqu'un de Bonnel, dont on a dit beaucoup de bien et qui est très agréable.
Moi, j'ai vu La vie des autres et j'ai vu Ne touchez pas la hache de Jacques Rivette. Voilà. Est-ce que ça vous a satisfait comme réponse?
Je pense que ça manifeste la diversité de nos intérêts.
Une autre question? Dominique, je crois que c'est Dominique.
Je me souviens de conversation avec Tanguy qui...
Pardon. Je me souviens de conversation avec Tanguy qui manifestait une immense connaissance de tout un univers du cinéma qu'on connaît beaucoup moins, qui est, on pourrait dire en gros, le cinéma underground. Et les références qui venaient dans la conversation, c'était au contraire le cinéma très connu, très partagé de la grande communauté. Et c'est celui-ci qui semble nourrir les œuvres narratives, donner du narratif à l'écriture. Alors, est-ce que ce cinéma underground, c'est un continent complètement séparé ou est-ce qu'il intervient dans l'écriture aussi?
Alors je ne sais pas à quel cinéma underground précisément tu fais référence, mais l'idée générale que ce soit un cinéma moins narratif, hein, et un cinéma plus effectivement, pourquoi pas comme on parlait des cinéastes de la lenteur et tout ça, je pense que c'est tout simplement que mon propos là, comme celui de tout à l'heure, est assez caricatural sur la réalité de ce qui se passe. C'est le problème de théoriser son travail ou assimiler, quoi. Et donc, en fait, il faudrait carrément que je fasse une annexe à ce que j'ai dit tout à l'heure pour rajouter dedans des pans entiers qui n'ont rien à voir avec les questions d'arguments narratifs, mais qui ont à voir avec des ambiances, des atmosphères, voilà, qui peuvent évidemment complètement venir glisser dans mon envie d'écrire, parce que ce que Christine a dit qui est très juste, c'est ça. C'est comment à un moment, le désir d'écrire rencontre une image ou quelque chose, un moment de réalité même, et que ce court-circuit-là produit une phrase, un paragraphe, une scène, etc. Et donc de ce point de vue-là, bien sûr que, je ne sais pas ce que je pourrais prendre, mais par exemple les films de Sokourov me donnent toujours envie de... le meilleur film que j'ai vu depuis 3 ans, c'est Le Soleil, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec... Bon, et je l'ai dans la tête, il est là, et son contraste, sa couleur, cet acteur complètement incroyable. Voilà. Donc, bien sûr, c'est très limité le problème de la narration, en fait.
Vous avez participé aux ateliers d'écriture sur le FGMA à KSDF ?
Non. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout.
Moi, je voulais faire une petite remarque d'ordre neurologique qui est que il semble que les zones du cerveau qui sont excitées quand on regarde quelque chose sont parfois les mêmes que celles qui sont excitées quand on prononce un mot. Par exemple, quand on dit ou quand on lit ou écrit table, on voit très rapidement une table. Donc, de ce point de vue-là, le cinéma et la littérature se rejoignent toujours, quoi.
Oui, mais je pense que c'est énorme ce qu'il doit y avoir derrière ces questions-là. Non, mais je ne me moque pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qui feraient sûrement avancer le débat de manière beaucoup plus concrète et réelle que...
Oui, mais peut-être qu'il vaut mieux les ignorer, parce que si on sait tout de la... Si c'est plus que du mécanisme neurologique...
Non, ça ne changerait pas la création, ça changerait juste... ça changerait ces débats qui sont quand même très, très light, qui sont très approximatifs sur ces questions-là.
C'est quand même une chance que quand on lit table, on voit une table.
C'est un miracle. Ça, c'est quand ça va bien. C'est quand ça va bien.
Si par exemple, oui.
Oui, mais c'est justement ce que reprochait Proust au cinéma. C'est que quand on prononçait le mot table, on voyait une table, mais on ne voyait pas la lumière, on ne voyait pas le bois de la table, on ne voyait pas tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on écrit.
Oui, mais ce que Marcel Proust, il dit ça notamment dans un article qui s'appelle L'article du Figaro. Où il a écrit un article dans le Figaro, et le lendemain matin, il va évidemment se précipiter pour acheter le journal, et il relit l'article en étant très content de tout ce qu'il a mis dedans, et il est très fier de la première lecture, et puis petit à petit, il est arrêté, il réfléchit, enfin, il arrive à se mettre dans la position de quelqu'un qui n'a rien à voir avec son histoire personnelle. Et il se rend compte évidemment de ce gouffre de manque dont le texte est bourré, c'est-à-dire que justement la table qu'il évoque ou la lumière du soleil qu'il évoque ne sera jamais celle que l'autre recevra, et c'est impossible pour le coup communauté que produit le langage, c'est quand même tout le trouble. Alors que pour le cinéma, on peut se poser la question quand même de la perception directe, est-ce qu'on voit ou pas quand même plus ou moins la même chose, quoi. Et vous savez que
la participation est plus active, la participation du lecteur est plus active que la participation du spectateur. C'est-à-dire que le lecteur apporte beaucoup plus de sa propre sensibilité, de ses propres émotions, de ses propres souvenirs. Même si c'est également le cas au cinéma, c'est beaucoup plus limité. Le cinéma est beaucoup plus contraignant. Et
s'ils étaient présents, vous contrediriez sur ce point.
Moi, je suis pas qu'ils le fassent. Non, je crois que s'il y a un visage imposé, c'est plus contraignant que de lire un prénom ou un personnage, ou même de décrire un personnage. Je pense que il y a.
Par exemple, l'écrivain décrit des pensées, nous donne d'emblée des pensées alors qu'elles ne nous sont pas données dans le film. Que nous les imaginons, donc l'un dans l'autre, il y a sans doute autant d'imaginaire dans la tête d'un spectateur, autant de projections que dans la tête d'un lecteur.
Oui, c'est pour ça que je tenais à dire au début que le cinéma était un art de la mémoire et de l'oubli. Et donc, s'il y a oubli et s'il y a mémoire, ça fait vivre autrement ces figures qui ne sont pas des figures plates qu'on a vues une fois pour toutes. De même qu'un nom, le nom d'une table n'est pas à tout jamais codifié. Enfin, je pense que de toute façon, il y a autant de lecteurs que de... Enfin, les livres génèrent leurs lecteurs, de même que certains films génèrent leurs spectateurs, génèrent leur mémoire. Je pense qu'on ne peut pas opposer terme à terme comme ça, dire l'image arrête le sens et le mot lui permet de continuer à vivre et à vibrer. Enfin, bien sûr, ça peut être le cas, mais enfin, le cas de Proust, pour en revenir à la littérature, nous montre qu'une œuvre est écrite il y a presque un siècle et a été lue aujourd'hui par des milliers, des millions de gens à travers le monde, dans d'autres langues même que le français, et qui à l'évocation de cette société complètement désuète de la fin du 19e siècle se trouve en communauté avec cette œuvre. Enfin, je prends une œuvre qui ne peut pas nous diviser et nous chagriner les uns les autres, mais c'est stupéfiant de se dire ça, c'est extraordinaire de dire que grâce à la littérature, les morts parlent aux vivants.
Il n'y a plus de questions.
C'est une question un peu annexe à Tanguy Viel. J'aimerais savoir si un jour il pourra raconter sa difficulté à ouvrir le récipient d'eau qu'il a depuis tout à l'heure dans les mains.
Moi, j'y suis pas arrivé. Hein.
C'est vrai que je m'acharne en plus. C'est... Bon, une nouvelle, pas plus. C'est impossible. C'est... Il va me faire honte.
C'est...
Ah ouais, j'ai vu tous les deux.
Tiens, c'est celui-ci. Tiens, Tanguy.
Hein, celui-là. Et ça, c'est le sien.
Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions plus transcendantales et plus substantielles, nous allons laisser nos invités boire de ces nouvelles bouteilles. Et donc, je les remercie, bien sûr, tous les quatre d'être venus. Et je vous remercie aussi d'avoir été là. Thank you.